Bonjour Pascal Cazotte.
Eh bien bonjour.
Monsieur Cazotte, vous êtes l'auteur d'un livre sur Napoléon qui s'appelle Chronique napoléonienne de la création de la Légion d'honneur à la fin de l'Empire. Avant qu'on discute avec vous du contenu de ce livre, c'est une passion pour Napoléon en particulier que vous avez, exclusive ou pour l'histoire ?
Alors, c'est vrai que je me passionne pour l'histoire en général, mais plus particulièrement pour Napoléon et le Premier Empire. D'ailleurs, ça, c'est une très vieille passion qui remonte, j'avais 8 ans à l'époque. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier, vu que je vais avoir 58 ans. C'est une vieille passion qui a donc 50 ans.
Et alors, une passion à 8 ans pour Napoléon qui vous est venue comment ?
Oh, ça, c'est un peu difficile à expliquer parce que dans le milieu où j'ai grandi, mes parents... ne s'intéressait pas du tout à Napoléon. Il était instituteur, mais l'histoire, oui, mon père s'intéressait un peu à l'histoire, mais pas du tout à Napoléon, et c'est moi, à 8 ans, je me suis passionné par le personnage. Je me souviens, j'avais demandé déjà à mon père à l'époque de me ramener un poster de Napoléon pour l'accrocher dans ma chambre, voilà.
Alors, Napoléon, à ma connaissance, d'après ce conseil, il était corse. Une petite question, Napoléon et l'Aveyron, il y a une histoire ou pas du tout ?
Eh bien non, il n'y en a pas parce qu'il n'est jamais passé en Aveyron, en fait.
Bon, est-ce que c'est lui aussi, peut-être, qui est à l'origine du département de l'Aveyron, non ? Même pas ?
Non, c'est-à-dire que, il y a touché quand même parce qu'il est à l'origine du département du Tarn-et-Garonne. Et il a pris quelques petits morceaux du Rouergue, c'est-à-dire le canton de Saint-Antonin-de-Bleuval, qui a été attribué donc au Tarn-et-Garonne.
Ah, d'accord. Donc, pour l'Aveyron, il nous a pris un morceau de terre, on va dire.
Petit morceau.
Alors.
le département du Tarn-et-Garonne, absolument.
Alors, votre ouvrage, Monsieur Cazotte, Chronique napoléonienne de la création de la Légion d'honneur à la fin de l'Empire. Déjà, on va cadrer un petit peu dans le temps. C'est pas toute la vie de Napoléon. La création de la Légion d'honneur, c'est quelle année ?
Mais la création de la Légion d'honneur, c'était juste avant qu'il devienne empereur. Mais de toute façon, le sacre a eu lieu le 2 décembre 1804 et c'était juste avant, donc voilà.
D'accord, donc vous, c'est Napoléon empereur qui vous a intéressé dans cet ouvrage ?
Alors oui, ça c'est sûr que les textes donc qui figurent dans cet ouvrage couvrent essentiellement, bien sûr, la période du Premier Empire, absolument.
Alors dans cet ouvrage, ouais, vous l'avez dit, c'est plusieurs textes, des chroniques, c'est-à-dire des chroniques, ça raconte des moments particuliers ?
Également aussi, oui, parce que je parle notamment de la fin de l'empereur à Sainte-Hélène. On parle toujours que Napoléon est mort d'un cancer d'estomac. Or, moi, j'ai jamais compris pourquoi, pour la bonne et simple raison qu'on a eu des analyses qui ont été faites. Les plus récentes datent des années 2000, qui ont été réalisées par un toxicologue de renommée internationale, un Français, qui s'appelle Pascal Kins, et qui a prouvé deux choses. En analysant des cheveux donc de Napoléon, il a prouvé d'abord que l'arsenic qu'il a découvert se trouvait au cœur même du cheveu, ce qui signifie que l'arsenic a été ingéré par Napoléon. Il est bien mort empoisonné, ça c'est une évidence. Et ensuite, dans une deuxième analyse, il a établi que cet arsenic était de l'arsenic minéral, c'est-à-dire que ça correspondait à de la morora. Et de fait, moi je me suis intéressé donc à rechercher qui avait pu être l'auteur de ce crime, et on trouve un personnage qui est le comte de Montholon, qui était parmi les fidèles qui avaient suivi l'empereur à Sainte-Hélène. Or, Montholon, il avait avec lui comme livre de chevet les confessions d'Abbeville, qui a été la plus grande empoisonneuse de son temps, comme par hasard. Il faut également savoir que Montholon, c'était lui qui avait la clé, on va dire, du cellier. C'est lui notamment qui mettait le vin de Constance en bouteille. Alors le vin de Constance, c'est un cépage bourguignon qu'on cultivait en Afrique du Sud. Et on le faisait venir d'Afrique du Sud, ce vin, jusqu'à Sainte-Hélène. Ça coûtait très très cher. Et ces bouteilles étaient exclusivement réservées à l'usage de l'empereur. Et on sait que, étant donné qu'il mettait le vin en bouteille, c'est lui également, forcément, qui en profitait pour mettre l'arsenic dans les bouteilles. Mais par contre, il faisait attention à ce que ce soit pas une mort violente. Il avait fait en sorte, si vous voulez, de créer ce qu'on appelle un empoisonnement chronique. C'est petit à petit que l'organisme est empoisonné, si vous voulez. Hein.
Donc ça, c'est votre thèse. Mais alors pourquoi ce Français, en plus, aurait empoisonné Napoléon?
Ben, si vous voulez, il y avait plusieurs raisons. Montholon, il faut savoir que, bien qu'il était un des fidèles de l'empereur, enfin, qu'il ait accompagné jusqu'à Sainte-Hélène, il ne supportait plus son séjour sur l'île. Donc je pense qu'il a voulu d'abord rendre mal à Napoléon pour qu'on le rapatrie en Europe. Ça, c'est la première théorie. Et ensuite, bon, l'épouse de Montholon, qui était Albine, était devenue la maîtresse de Napoléon. Il a fait deux enfants à Sainte-Hélène. Hein.
Ah bah d'accord.
Oui, il faut le savoir. Oui. Donc il avait peut-être aussi une petite idée de vengeance derrière la tête. C'est possible également. Surtout, il faut savoir que le fait de garder Napoléon à Sainte-Hélène coûtait extrêmement cher à l'Angleterre.
Oui.
Imaginez-vous qu'il y avait quand même une garnison de 2000 hommes en permanence sur l'île. Il y avait aussi toute une frégate, tout un tas de navires qui tournaient autour de l'île pour faire en sorte qu'on ne vienne pas chercher à le secourir. Enfin, ça coûtait excessivement cher. Et je pense qu'Hudson Love a dû recevoir des ordres, au moins, peut-être pas par écrit, mais au moins des ordres oraux, lui demandant d'écourter la vie de Napoléon. De toute façon, c'est forcément Hudson Love qui fournissait l'arsenic à Montholon, et ça s'est passé comme ça. Hein.
Donc ça, c'est un des éléments de cet ouvrage, une prise de position avec des éléments sur la mort de Napoléon. Mais alors, Napoléon, avant sa mort, et ne serait-ce qu'entre 1804 et son décès, Napoléon, c'est un peu un Napoléon vu de l'extérieur. Hein. Un Napoléon, pas aux deux visages, mais un Napoléon, dans un premier temps, grand vainqueur, puis après, Napoléon battu, écrasé et exilé, deux fois.
Alors, si vous voulez, moi, je ne parle pas du tout des batailles qui ont pu avoir lieu pendant cette époque dans mon ouvrage, parce que ça va donner lieu en fait naissance à un autre ouvrage qui verra le jour, alors je ne sais pas encore quand, mais on y travaille avec mon éditeur, parce que c'est en fait ce livre que j'ai écrit va être le premier tome d'une série de 4 ou 5 ouvrages. Voilà.
D'accord.
Et donc là, je me suis contenté de parler d'autres aspects, si vous voulez.
Oui.
Donc des aspects peu connus, notamment parce que par exemple, les rapports. Qu'avait Napoléon avec les États-Unis, avec l'Amérique. J'ai parlé aussi des rapports qu'il a pu avoir avec les animaux, avec les chiens, avec les chevaux, etc. Bon, on voit aussi, par exemple, d'autres sujets qui sont peut-être un peu plus connus, mais peut-être pas tant que ça du grand public. Par exemple, je parle des pontons anglais. Ça a été quand même une véritable infamie, ces pontons anglais, hein. On avait nos prisonniers français qu'on laissait mourir de maladies, de faim sur ces pontons. Hein. C'était une horreur. Je parle aussi de l'école de Fontainebleau, l'école militaire de Fontainebleau, hein, qui a été à l'origine de Saint-Cyr, si vous voulez. Hein. Et ça, c'est encore une création de Napoléon pour former les futurs officiers de la Grande Armée. Je parle voilà, de divers aspects qui, à mon avis, peuvent intéresser pas mal de passionnés.
Bah oui, bien sûr. Tiens, pour reprendre les deux premiers, Napoléon et l'Amérique. Alors, Napoléon et l'Amérique, c'est pas, il a pas vendu la Floride, un truc comme ça?
Non, c'était la Louisiane.
Ah, pardon.
Oui. Alors, ce qu'il faut savoir là, au niveau de la Louisiane, alors déjà, on représente la Louisiane comme un petit État, mais à l'époque, la Louisiane, c'était quand même un tiers des États-Unis. C'était un morceau quand même assez colossal. Alors, il avait des projets, effectivement, pour la Louisiane, mais le souci, c'est qu'on avait perdu Saint-Domingue. Alors, Saint-Domingue, si vous voulez, qui est devenu Haïti, bien sûr, par la suite. Saint-Domingue, c'était, si vous voulez, une île qui aurait pu constituer un marchepied pour d'abord amener tout ce dont on avait besoin pour après s'occuper de la Louisiane, c'est parce que c'était pas très loin après pour y aller, y accéder en navire. Donc c'était vraiment une base, si vous voulez, qui était importante et nécessaire pour après s'occuper de la Louisiane. Or là, on n'avait plus déjà Saint-Domingue. En plus, on avait bien sûr la flotte britannique qui parcourait les mers et les océans, donc c'était de plus en plus compliqué. Et puis, il faut savoir que pour les Américains, pour les dirigeants américains, celui qui possédait la Louisiane était pour eux un ennemi naturel. Parce qu'ils avaient besoin de la Louisiane d'abord pour continuer leur conquête vers l'ouest, et puis surtout aussi au niveau du commerce. Parce qu'avec le importante pour le commerce. Oui, donc, il s'est retrouvé avec, d'une part, une impossibilité vraiment de s'occuper de ce territoire, et il ne pouvait pas se permettre de supporter de guerre avec les États-Unis. Donc, le mieux était effectivement de leur vendre la Louisiane, c'est ce qu'il a fait du reste, voilà.
Il avait peut-être aussi un petit peu besoin d'argent pour payer ses batailles en Europe.
Non, parce que ça n'a pas été vendu très cher, la Louisiane. Non.
Alors, et sinon, sur les États-Unis, j'ai vu ça récemment dans un documentaire qui évoquait qu'au moment de... Alors, après son retour à Paris, sa reprise rapide du pouvoir, bon, il fuit avant de se faire exiler. Il aurait envisagé de partir s'exiler aux États-Unis.
Absolument, tout à fait. Alors ça, c'est après la bataille de Waterloo. Il avait prévu, effectivement, de partir aux États-Unis pour vivre la vie d'un scientifique, en fait. Parce qu'il faut savoir que Napoléon, c'est un génie, mais vraiment dans tous les domaines. C'était un mathématicien, bien sûr, puisque ça on le sait, il était très bon en maths. Au niveau de l'artillerie, d'ailleurs, ses compétences en mathématiques étaient très utiles. Il voulait vraiment faire œuvre de scientifique. D'ailleurs, il avait préparé tout un attirail de scientifiques avec tout ce qu'on peut imaginer pour apporter donc sa pierre à l'édifice. Il voulait faire des découvertes aux États-Unis. Peut-être aussi bien au niveau géographique qu'au niveau, je ne sais pas, de la flore, de la faune, du pays, etc. Enfin, il avait vraiment un projet de faire un ouvrage sur les États-Unis. Et malheureusement, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que c'est rendu sur un navire anglais pensant que les Anglais allaient l'accueillir sur leur territoire et le laisser vivre en toute liberté, naturellement, alors qu'ils l'ont trahi, parce qu'à peine il avait mis le pied sur le navire anglais qu'il a été fait prisonnier. Et il y avait juste un capitaine d'un navire français qui avait proposé à Napoléon de tenter une sortie quand même, de passer à travers le blocus britannique et de l'amener jusqu'aux États-Unis, mais il n'a pas voulu faire prendre le risque à cet équipage, au capitaine et à son équipage de tomber entre les mains des Britanniques. Donc il a préféré, vu qu'il y avait ce blocus qui l'empêchait de prendre la mer, il a préféré s'entendre avec les Anglais seulement, et il ne pouvait pas imaginer qu'il le trahirait d'une telle façon, ça c'est sûr.
Alors, autre aspect que vous avez évoqué à retrouver dans votre ouvrage, Pascal Cazotte, les animaux, parce que c'est vrai que Napoléon, sur les peintures, les représentations, on le voit souvent à cheval, mais à part les chevaux, je ne vois pas trop le rapport avec les animaux.
Il a eu à peu près une centaine de chevaux, alors, il adorait les pur sang arabes, qu'il préférait entier d'ailleurs, donc c'était des chevaux de caractère, et puis ils étaient magnifiques tous ces chevaux. Alors il a eu d'autres races bien sûr, mais les pur sang arabes c'était vraiment les chevaux qu'il préférait. Ensuite il y a eu quand même des rapports aussi avec les chiens, parce que il faut savoir que Joséphine, lorsqu'il a connu Joséphine, elle avait un petit chien de race carlin. Cette anecdote en passant, c'est que au moment de la nuit de noces, le carlin, qui était très jaloux de Napoléon, qui à l'époque n'était encore que le général Bonaparte, il a sauté dans le lit, il est allé mordre le mollet de l'auguste personnage.
Il a pas reçu un coup de pied?
Non, même pas. Napoléon n'a eu aucun mouvement pour punir le petit chien. Mais j'imagine que sur le coup, ça allait lui faire plaisir. Alors il faut savoir aussi que lorsqu'il est parti après sa première abdication, il est parti à l'île d'Elbe, il a emporté avec lui un chien des Abruzzes, qui est un magnifique chien.
C'est un quoi? C'est un chien de berger un peu?
Le berger des Abruzzes, si vous voulez, c'est un chien quand même d'une bonne taille, qui a un poil long, enfin mi-long, blanc. Ça ressemble un petit peu aux montagnes Pyrénées, pour vous guider, voilà. Il avait ce chien avec lui, mais il adorait les chiens, il adorait les chevaux. Donc tout ça, je l'explique dans mon ouvrage.
Voilà, c'est à retrouver avec plein d'autres petites histoires dans la grande histoire de Napoléon. Voilà. Dans votre ouvrage, Pascal Cazotte, qui s'appelle, je le rappelle, Chronique napoléonienne de la création de la Légion d'honneur à la fin de l'Empire. C'est édité chez les Trois Spirales et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies ou aussi en ligne. Merci beaucoup, monsieur Cazotte. Dernière question. Là, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Pour vous, c'est une journée, On a bien compris que vous étiez très passionné par Napoléon, vous l'appréciez beaucoup. Bon, mais le bicentenaire de son décès, pour vous, c'est une journée de deuil, de recueillement, ou vous faites quelque chose de spécial ou non ?
Personnellement, je ne fais rien de spécial, mais par contre, je considère que c'est une journée très importante et je pense que les Français devraient en profiter pour se souvenir du grand personnage qu'a été Napoléon. Parce qu'il a apporté tellement de choses à notre pays, parce qu'on le voit toujours sous cette image du conquérant, de oui. Celui qui part en bataille. Alors, en plus, c'est une image qui est complètement fausse, parce que c'est vrai que s'il a été un génie aussi au niveau des manœuvres militaires, etc., il faut savoir qu'il aspirait toujours à la paix. Mais le problème, c'est que on a eu quand même sept coalitions des pays européens contre la France, entre la Révolution française et 1815, sept coalitions donc des nations européennes qui nous ont fait constamment la guerre. Donc il n'a fait que défendre notre pays, en fait. Hein. Et ça, les gens l'ignorent complètement. Par exemple, l'Angleterre, qui soudoyait souvent d'ailleurs les monarques européens pour nous faire la guerre, pour vous citer un exemple, l'Angleterre a versé au tsar de toutes les Russies 2 livres sterling par soldat qui mettrait sous les armes lors de la bataille d'Austerlitz. Donc pour la bataille d'Austerlitz, ça les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas non plus que la paix d'Amiens a été rompue unilatéralement par les Anglais. On a une lettre du roi d'Angleterre qui explique très bien qu'il faut arraisonner les navires français, faire ni plus ni moins qu'un acte de piraterie. En fait, on a eu peut-être, on a été sans doute victime d'une jalousie d'Angleterre. Ce n'était pas le mot approprié, mais en tout cas, si on avait laissé Napoléon faire son œuvre civile, alors ça, j'en parle aussi dans mon livre. J'ai un texte qui s'appelle Napoléon le civilisateur. On voit tout ce qu'il a apporté à la France, et au niveau civil, hein, je m'entends.
Oui.
Et si on l'avait laissé en paix, cet homme-là, sans doute qu'il aurait fait de la France la première nation au monde. Hein, parce qu'il faut voir l'œuvre qu'il avait mise en place pour la France. Hein. On lui doit énormément de choses. On lui doit le code civil, on lui doit des tas d'institutions modernes. On lui doit, notamment la Cour des comptes, on lui doit le Conseil d'État, on lui doit le cadastre parcellaire que l'impôt repose sur justement la valeur des terres qui soit bien calculée comme il fallait. On lui doit énormément de choses. Hein. Au niveau aussi construction, les Parisiens, si après les Parisiens n'ont plus manqué d'eau, c'est grâce à Napoléon. Il a fait venir de l'eau avec le fameux canal de l'Ourcq qu'il a fait construire. Il a fait construire des ponts.
Et l'Arc de Triomphe, non ?
Ah ben l'Arc de Triomphe, si vous voulez, de son temps, il y a l'Arc de Triomphe du Carrousel qui a été bâti sous lui, mais si vous voulez, le deuxième Arc de Triomphe, le grand Arc de Triomphe qu'on connaît, Place de l'Étoile, les travaux avaient commencé sous Napoléon, mais ont été achevés bien après lui quand même. Hein. Mais c'est vrai, c'était lui qui l'avait initié. Et c'est lui aussi qui a fait aménager le Louvre pour en faire l'un des plus beaux musées au monde qu'il soit. C'est lui aussi qui s'est intéressé au statut de la Comédie française. Au niveau des sciences aussi, il donnait des prix déjà à ceux qui travaillaient sur l'électricité. Mais on ne peut pas s'imaginer tout ce qu'il a fait déjà au niveau civil. Mais le souci, c'est qu'il était toujours obligé de remonter à cheval pour aller combattre les ennemis qui approchaient de la France. On l'aurait laissé en paix, je ne vous dis pas tout ce qu'il aurait fait pour la France. Ça aurait été extraordinaire.
Et on ne fera pas l'histoire.
Même si on en a envie.
J'ai bien compris. Merci beaucoup Pascal Cazotte d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Bonne continuation.
Merci, à vous aussi.
Chronique napoléonienne de la création de la Légion d'honneur à la fin de l'Empire, signé Pascal Cazotte. C'est aux éditions Les Trois Spirales. C'est 192 pages au prix de 19,50 € et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies.